Chers amis Hachem, Alechem Tiahyo, les Orechem, Tobim, Shanim, Nehemim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vayetse. Zrenu Beshem Adonai, Ansei Shamaim Vaaretz. À présent, nous allons nous concentrer sur la Tfila de Yaakov. Alors, il est dit au premier pasuk, Vayetse Yaakov et Beersheva, Vayele Harana. Donc, il est sorti de Beersheva et il a pris la direction de Haran. C'est-à-dire que le sens simple du verset, il s'est mis en chemin pour atteindre Haran. Et en route, il va Yvgab à Makom. Il a atteint le lieu. Il a une chambre et il a passé la nuit. Chazal ne disent pas comme ça. Chazal nous disent qu'il est arrivé à Haran. C'est le drouche qu'ils font, c'est la dracha qu'ils font quand ils disent voyez les Harana, ça sous-entend qu'il a atteint les portes de la ville de Haran. Et là, la Gemara nous dit dans Holin qu'il s'est arrêté un instant et il s'est dit, je suis arrivé à Haran, mais voilà que je suis passé devant le lieu où mes ancêtres ont prié. Et il a pensé revenir et immédiatement il s'est retrouvé devant le lieu. C'est-à-dire que dans le sens simple du pasouk, le pshat, on peut dire que c'est en chemin, il est passé par là. Et dans le drouche, on dit qu'il a atteint Haran et il est revenu. Et le lieu est venu à sa rencontre. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit que le lieu s'est levé devant lui comme une muraille, l'empêchant de continuer son chemin. C'est ça le sens de Vaivga. Et là, il a prié. Il dit, Efchar Shahavarti, est-il possible que je sois passé devant le lieu, le fameux lieu où Abraham, Yitzhak, etc. ont prié, et moi je ne m'y suis pas arrêté pour le faire. Alors Yahiv Dart et les Médar, il a eu l'intention de retourner, et de suite il y a eu Kfisat Aderer, il s'est retrouvé en ce lieu. Et le mot Vaivga, nous dit Chazal, c'est un des 10 termes qui qualifie la prière, qui définit la prière. Mais cette prière-là, elle est particulière a priori. Vaivga Bamakom. Vaivga Bamakom, ça veut dire qu'il a prié. Point. Donc la prière, elle est définie en 2 termes. Vaivga Bamakom. De quel lieu s'agit-il? Quel est le sens du Makom? C'est quoi le mot Vaivga? Il a touché le lieu. En cette Rachid dit que c'est la chante tefila, les Chazal ramènent des termes, des déductions des versets pour dire que le mot Pegia est un la chante tefila. Et Chazal nous dit ici que Yaakov Avinu a institué la tefila de Arvit. Abraham, il a institué la tefila de Shachit. Yitzhak, il a institué la tefila de Mincha en fin de journée, avant que le soleil se couche. Et là, Yaakov Avinu a institué, il est marqué l'et Erev chez Yitzhak, vers le soir. Et là, il a institué Tfilat Arvit. Toutefois, il a lieu de s'étonner que Vaivga Bamakom voya l'encham qui bat Shemesh, Rachid dit, il a touché le lieu et il y a passé la nuit. Pourquoi? Parce que le soleil s'est couché. Alors, c'est parce que le soleil s'est couché qu'il y a passé la nuit. Mais lui, il pensait continuer son chemin. C'est ce que nous disent les Chazal. Rashi le dit. Kiba Hashemesh, ayalo lirtov, vayavo Hashemesh. Qui va, on dirait, c'est la conséquence. C'est le pourquoi du. Vayalimshan. Kiba Hashemesh, mashma, shishak alo hama pitom, shelo beonata. De là, nous apprenons que le soleil s'est couché avant son temps. Afin qu'il y passe la nuit. C'est-à-dire qu'il était encore jour, largement, il faisait jour, parce qu'il pensait poursuivre son chemin, ou reprendre le chemin. Et Akadosh Baruch Hu a dit, Efchar, tzadik ze ba le bet maloni, est-ce possible que ce tzadik-là, il vient chez moi, dans ma demeure, et il n'y passe pas la nuit. Donc il a fait coucher le soleil. Ah, de manière prématurée, beaucoup prématurée, longtemps avant, afin qu'il y passe la nuit pour l'empêcher de continuer le chemin. Donc, mais le terme essentiel, Vaivga Bamakom, c'est ça la prière. Donc Yaakov Avinu, il a institué la tfila de Arvit. Et il a institué la tfila de Arvit, si on suit les Chazal, après avoir atteint la porte de la ville de Haran. Et là, soudain, il se ravise et il réfléchit sur ce qu'il fait et il revient. Pourquoi avoir institué la tfila de Arvit là, maintenant? Les Mfarchim disent, Rav Chaim Brisk s'étonne, il dit, pourquoi juste maintenant il a institué la tfila de Arvit? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas quand il était à la yeshiva? C'est quoi le pourquoi Chazal nous relie l'institution de Yaakov, que Yaakov il a fait la prière, la tfila, juste maintenant quand il est en chemin et quand il est prêt à quitter? En plus, il est dit, Vayetse Yaakov mi Beersheba, c'est-à-dire Yatsam mi Mekomo. Yaakov Avinu est sorti de son lieu réservé. Il sort de ce qui est sa norme, son environnement naturel. Et il va chez Lavan, qui n'est pas le lieu normal où Yaakov doit se trouver. Et Chazal nous dit que c'est le Galout. Ça fait référence à l'exil en Égypte. Et c'est le parallèle. Et d'après les Mkoubalim, il est certain, même d'après les Pashtanim, c'est que en Égypte, l'Égypte est qualifiée de matrice dans laquelle le Ham Israël est en gestation jusqu'au moment de la sortie. Et lors de la sortie, c'est un accouchement, mais un accouchement, cette matrice qui accouche, l'Égypte qui s'ouvre, la matrice de l'Égypte est comme une matrice fermée, comme le même sophite du mont Mitzrayim, qui s'ouvre et qui donne naissance à un enfant. Mais cet enfant-là, il n'est pas un enfant, il est un adulte. C'est un peuple organisé, fort, puissant, qui sort avec des richesses, avec une hiérarchie, avec une organisation et des institutions, un roi, un Kohen Gadol, etc., avec des chefs de tribus, etc. Donc, ils sont organisés. C'est un enfant adulte. Et c'est de même, c'est ce qui va se passer pour Yaakov. Yaakov, il va être enfoui, enveloppé, emprisonné, enchaîné chez Lavan. Et il va construire la maison, les Shiftei Israël. Il va construire sa maison. Maaseh Avot Siman Labanim. Et c'est au sortir de chez Lavan que le Ham Israël, au départ, donc les Shivatim, ils sortent. Et c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Et Lavan va le poursuivre. Et ça ressemble parfaitement à Pharaon qui rassemble ses cavaliers, etc. Pour aller poursuivre Am Israël. Donc ça, c'est ressemblant. Et c'est en vue de cet exil, si on veut, de sortir de son bacom, du lieu normal de sa de son développement, de son épanouissement, le lieu naturel où il vit, que Yaakov Avinu va faire la tfila. Et il va faire la tfila de Arvit. Alors, à la différence des autres tfilot. La tfila de Shachrit, la Mishnah nous dit, on fait la tfila de Shachrit dès le lever du jour, on peut faire, c'est-à-dire qu'il est bien de faire la Amida au moment du net, un peu avant, un peu après, mais on ne peut pas la faire la Amida n'importe quand. On peut faire la Amida que jusqu'à la quatrième heure. Bien avant, jusqu'à Hatzot. Après Hatzot, Mincha, on peut faire Mincha l'après-midi. Alors, de telle heure à telle heure, plague Mincha, d'après Rabbi Yehuda, etc. Donc, il y a la tfila de Mincha, elle est limitée. Le temps de Mincha, il est limité. Il est limité à un moment donné. Arvit n'a pas de temps fixe. On peut faire Arvit toute la nuit. D'ailleurs, c'est important. Il n'y a pas un temps fixe. Donc, c'est comme si que Arvit n'est pas défini de manière fixe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait Arvit un peu avant la tombée du Rambam, dit, du fait que Arvit n'est pas une obligation, ce n'est pas, c'est pas Hava, c'est pas une obligation de faire Arvit. Donc les gens ont pris l'habitude de faire Arvit. Rechoud Vena Hava, alors on aime Dagdakim, on fait pas attention exactement à l'heure de faire Arvit. Mais toutefois, il y a lieu de regarder, de voir que dans le verset, les Chahora, Yaakov Avinu, il a fait Arvit de bonheur. Donc, comme on l'a dit, le Tosfot en Brachot, qui souligne cela, qu'il a fait Arvit déjà au plus tard, une heure et demie avant le coucher du soleil. Puisque on dit, il y a un Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait coucher le soleil une heure ou une heure et demie avant, et il va le récupérer à une autre occasion. Donc on voit qu'il a fait Arvit quand il fait jour. Dans le Zohar, c'est marqué, dans le Zohar Hadash, c'est marqué qu'il est préférable, toutes les tfilotes doivent se faire le jour, et à la nuit tombée, les portes du ciel se ferment, donc il est déconseillé, le Zohar déconseille fortement de faire Arvit à la nuit. Il faut faire Arvit dans un moment où il fait plus jour que nuit. Et il y a ici une idée profonde qui est mentionnée. En effet, Arvit, c'est le temps de l'obscurité. Et nous disons dans Arvit que Ve'emouna, on dit le terme Emet Ve'emouna. C'est quoi le. Et on conclut cette bracha-là, Baruch Hashem Gal Israël. Donc la Geoula ne peut pas se produire la nuit. La Geoula, la nuit fait référence au Galout. La nuit fait référence à l'obscurité où les forces de lumière sont mises à l'écart. C'est pas le domaine de la lumière. La lumière ne peut pas jaillir au milieu de la nuit. Donc elle jaillira, la lumière, à la fin de la nuit. Donc c'est le galout. Et Yaakov va en galout. Et il va faire la tfila avant que commence le galout. C'est cette conscience-là qu'il a au moment où il arrive devant Haran. Alors le Hari explique que Haran, c'est le lieu de la Touma, le lieu de où en emprisonnement, ça fait référence à un étau, un endroit étriqué où on est oppressé. Ça ressemble parfaitement à l'Égypte. Donc c'est ce qu'il appelle le coup, et il est étroit. Et donc c'est quand on est dans le coup, on n'arrive pas à s'épanouir. Donc on est oppressé dans le lieu, comme si que nous étions entre les deux morts d'un étau que l'on referme. Exactement la même idée que Mitzrayim. Mitzrayim, c'est ça. Et Yaakov va s'enfuir, va rentrer dans le domaine de Lavan, et il va pendant 20 ans être sous l'emprise de Lavan. Mais il fait son chemin, et il construit ses enfants, sa maison, etc. Et ça jaillit, la puissance de Yaakov ne jaillira qu'à la fin, au moment de Akadosh Baruch Hu lui dit, il est temps de partir. Donc la prière, elle se fait avant. Elle se fait avant en préparation. Et c'est ça le sens de Makom. Va'ivga ba Makom. Alors en nous disant, c'est le lieu où Akadosh Baruch Hu se dévoile. Alors Yaakov Avinu sait pertinemment que ce lieu-là, c'est le lieu où on fait la tfila. C'est un lieu kadosh, c'est un lieu particulièrement éminent, c'est un lieu saint, Akadosh Baruch Hu se dévoile là-bas. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit à ce sujet, est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que le monde, l'immensité du monde est le lieu où Dieu se dévoile, ou la résidence de Dieu? Donc comme le monde est immense, alors c'est le lieu, le monde c'est le lieu où, mais comment chez Akadosh Baruch Hu? Ou Akadosh Baruch Hu vient s'installer dans ce monde. Ou bien l'inverse, c'est Dieu qui est le lieu où le monde s'est construit. Et là, on voit que, non, on dit, Akadosh Baruch Hu, mais comment chez l'Olam? Le monde a été construit dans Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette question-là qui se demandait à Yaakov en arrivant devant Haran. Je retourne devant ah, Efchar, il se pose la question. Efchar, Shavarti al-Makom, Shit Palelou, Boavoda, il se pose la question. Donc il a une réflexion philosophique. Est-ce que ce lieu-là, je peux faire. Dieu est partout. Si le monde est la résidence de Dieu, alors qu'est-ce que j'ai besoin de retourner là-bas pour faire la prière? Je peux faire la prière d'ici. Il n'y a rien de particulier. Non, là-bas, c'est le lieu où mes ancêtres ont prié. Alors, je peux retourner. Ou bien, je dis que c'est un lieu particulièrement éminent. C'est là, c'est de ce lieu-là que Akadosh Baruch Hu se dévoile. C'est pas qu'il y a là-bas plus de. C'est le lieu de Gilou Shekhina, en fait. C'est ce que nous appelons Gilou Shekhina. La prophétie peut se passer partout. Donc, nous savons que lorsque nous mettons le Shulchan Aruch dans Siman Tzadiké, lorsqu'on se met pour faire la Hamida, on se lève pour faire la Hamida, il faut vider son esprit et avoir l'intention de se placer, de se tenir devant Akadosh Baruch Hu, devant la Shekhina, et on peut atteindre à travers la prière un niveau tel que un niveau de prophétie. On se détache de la matérialité et on se consacre, on médite et on parle à Kadosh Baruch Hu, on peut atteindre des niveaux particulièrement éminents, tels qu'on peut atteindre un niveau proche de la prophétie. Donc c'est ça là. Alors on peut faire ça la prière partout. Ou bien c'est particulier là-bas. Alors c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit à la fin du rêve, etc. Vaikat Yaakov mimshenato. Yaakov s'est réveillé de son sommeil et il dit Vayom erachen yesh Hashem bamakomaze. Ah, ainsi il y a Dieu dans cet endroit-là. Et moi je ne le savais pas. Vanochi le hadati. Tout le monde pose la question comment tu le hadata? Ce que ça veut dire ça? Mais toi tu es revenu que pour ça? Non, il ne savait pas ça. Et ici il dit Vaikat Yaakov Mishenato, Chazal dit, Mi Mishenato, il a appris quelque chose ici, il a fait une Mishnah, un enseignement qu'il ne savait pas auparavant, et il dit, Vayom Erachen Yesh Hashem Bamakom Azeh, Hashem est là. C'est-à-dire que j'ai compris à présent que le lieu, ici, il y a un lieu de Gilou Shekhina. Il y a le concept de Nevoa et il y a le concept de Gilou Shekhina. Gilou Shekhina, la Nevoa, La névoie, le navi, il est le truc. La névoie n'est pas particulière au navi. La névoie, elle est globale, mais elle passe par un individu. Donc le prophète est le truchement par lequel la prophétie se dévoile. Mais elle ne le concerne pas toujours. Hein. Il est un keli de la névoie. Gilou Shekhina, qu'on voit au sujet d'Abraham, Vayera Elav, etc. Dans Vayera Elav, Elon et Mamre, Gilou Shekhina là-bas, c'est particulier pour Abraham. Donc c'est un autre niveau. Alors il dit, alors les Mfarshim disent que qu'est-ce qu'il aurait pu. Alors je ne savais pas. Alors si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais dit? Alors il dit, Rachid dit, si j'avais su, j'aurais dormi ailleurs. Alors, il est soucieux du fait d'avoir dormi dans le lieu de Gilou Shekhina. Donc, il n'aurait pas dû dormir en ce lieu. Donc, il est soucieux de cela. Moi, j'aurais dit, mieux que Rashi, a priori, j'aurais pu dire que pourquoi j'aurais pas dormi ici, j'aurais dormi ailleurs. J'aurais dit, j'aurais passé la nuit à étudier ici. C'est un lieu saint. Alors, j'aurais fait Tehilim. J'aurais prié, j'aurais étudié ce lieu. Si c'est un lieu éminent de sainteté, je ne sais pas que j'aurais dormi ailleurs. J'aurais passé la nuit réveillé. Bon, on aurait pu dire ça. Mais Yaakov, il n'a pas le souci de ce qu'il aurait pu gagner. Il a le souci d'avoir profané le lieu. Donc c'est ce que Rashi veut nous enseigner. Il y a un autre midrash qui dit, si j'avais su, si j'avais su, j'aurais prononcé le nom de Dieu tel qu'il est écrit. C'est ça ce que c'est ce qu'il dit. Vaikas Yaakov Mishenato, Achen Yesh Hashem, Yudke Vavke. Alors, il y a marqué dans le temple, la Gemara, dans Sota, dans plusieurs endroits, nous dit, dans Kiddushin, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu, Yudke Vavke. Il est écrit Yudke Vavke, et on le prononce Ado plus loin de Naï. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, dans Kiddushin, elle dit que quand Dieu s'est dévoilé à Moshe dans le puissant ardent, il lui dit Zéchemi le Olam et Zéchemi le Dordor. Dilo Keshem Shani Nirtav Ani Nikra. Je ne suis pas prononcé, mon nom ne se prononce pas tel qu'il est écrit. Il est écrit de cette manière-là, Yudke Vavke, mais il se prononce Aleph Dalet Nunyud. Adon. Donc on ne peut pas prononcer, c'est assourd de prononcer le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Mais dans le temple, alors on prononce le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Alors dans Sota, il y a des Rishonim, des Tosfot qui expliquent que dans le temple, par exemple, à la mort de Shimon HaTzadik, les Kohanim ont cessé de prononcer le nom de Dieu ou de bénir Israël tel qu'il est écrit. Ils ont cessé de dire le Shem Havaya Baruch Hu Yudke Vavke tel qu'il est écrit. Dans Yom Kippour, par exemple, nous disons dans le Moussa, Vea Kohanim, le Kohen Gadol, il prononce dix fois le Shem Havaya Baruch Hu. Il y a trois vidouim. Alors dans les trois vidouim, il y a trois fois le nom de Dieu, Yudke Vavke. Donc ça fait neuf. Et quand il fait le tirage au sort, la Shem Hatat, là aussi il prononce le Shem Havaya tel qu'il est écrit. Donc Yudke Vavke. Et à chaque fois, Vea Kohanim, Vea Aham. Alors les Kohanim et le peuple, quand ils entendaient le nom de Dieu prononce qui sortait de la bouche du Kohen Gadol, Bigdusha Otara, il se prosternait, il se jetait à terre, et il dit Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaet. Ça veut dire que dans le temple, on ne répond pas Amen, on répond Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaet. Toutefois, la Gemara dans Sota, elle dit qu'au décès de la disparition de Shimon HaTzadik, Gilou Shechina a disparu. Donc il y a une des choses qui a disparu avec le décès, la disparition de Shimon HaTzadik, c'est quand. C'est qu'il n'y avait plus Gilou Shekhina. Et le fait qu'il n'y avait plus Gilou Shekhina, ils ont cessé de prononcer le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Donc on voit que ce n'est pas parce que le temple est saint que l'on prononce le nom de Dieu Yudke Vavke. C'est parce que c'est le lieu de Gilou Shekhina. Et c'est ça ce que Yaakov Avinu dévoile ici. Et il institue donc, c'est la force d'avoir institué la tfila. La tfila de Arvit en vue du Galout. Donc le Makom, il rencontre le lieu. Le lieu vient à sa rencontre. Et là, il prie pour le futur. La tfila d'Arvit, c'est pas pour Arvit lui-même, c'est pour la fin de Galout. Et au matin, il voit que cette force du lieu de... Donc il se relie, en fait. C'est ça l'idée. Il se relie à ce lieu. C'est-à-dire que non seulement Yaakov Avinu au départ, il ne fait pas une tfila qui sort de nulle part. Il n'invente pas une tfila de lui-même seul. Cette tfila, elle s'inscrit dans la continuité de Avraham et de Yitzhak. C'est pour ça qu'il prend les pierres. Vaikar me avne amakom, le Midrash Perke de Rabbi Eliezer dit, il a pris 12 pierres du Misbéar que Avraham Avinu il a construit pour le sacrifice d'Isaac. Donc il se relie à ça. Et les 12 pierres font référence aux 12 Shvatim, etc. Qui font référence aux 12 mois de l'année, aux 12 compositions du Shem Havaya, et donc il se relie à ça. Mais maintenant qu'il s'est relié à ça et qu'il a innové la tfila de Arvit, il y a une tfila qui est introduite maintenant par Yaakov Avinu, juste avant de partir en Galout, juste au moment où il est en chemin, il doit trouver le lieu, il n'est pas dans son lieu. C'est ce que la Gemara, le Zohar, il dit à plusieurs endroits que la Shekhina no dedet. La Shekhina, elle est en exil, elle va là, et elle va là. Elle compare ça au pasuk que l'oiseau n'a pas trouvé où se poser. Donc la Shekhina, elle ne peut pas, elle ne trouve pas où se poser. Donc les Chachamim, une fois, ils sont à droite, Une fois ils sont à gauche, ils sont chassés et ils partent d'un lieu à l'autre. Ils n'ont pas de lieu où ils se posent de manière certaine, pour longtemps. Même si c'est plusieurs dizaines d'années, c'est temporaire. Et ce n'est pas un lieu qui nous correspond, ben, parce qu'il y a de l'animosité environnante, l'hostilité, etc. Et fort de ce lieu-là, il va avec le lieu. Donc il va, il part, va makom, il prend tout ce qu'il peut prendre de ce lieu. Makom, c'est le nom de Dieu. Et il part avec en galoute. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est ça le sens que nous voulons dire, chaque fois que nous faisons la tfila, nous devons nous diriger vers ce lieu. Parce que c'est de ce lieu-là, quand bien même faisons-nous la tfila loin, éparpillés aux quatre coins de la terre, nous nous dirigeons vers ce lieu, parce que c'est, à l'instar de Yaakov Avinu, c'est de ce lieu-là que la prière va monter. Nous concentrons notre filote dans ce lieu. Parce que c'est de ce lieu-là où Abraham et Isaac ont prié. Et nous, quand on prie, Charkit, Mincha et Arvit, on le fait d'un lieu lointain. Nous sommes dans... Comme si que même Charkit serait Arvit. C'est-à-dire que nous sommes en Galoute. Donc même Charkit, Mincha, ils ont un din de Galoute. Donc on est loin. Et cette idée-là de Yaakov Avinu, il a conclu les trois tfilotes. Il y a trois tfilotes. Et c'est ça ce que les Avot ont institué quand on lit le Rambam. Que les Avot ont institué au début de Ilchot Melachim. Le Rambam, il cite que la Torah a été transmise à Abraham. À partir d'Abraham, c'est un renouveau de la Torah. Un nouveau derrière qui se... Une nouvelle composition de la Torah. Jusque-là, il y avait sept mitzvot. Mais avec Abraham, il y a un nouveau, c'est un renouveau de la Torah, nouvelle. Et là, il dit qu'Abraham a prié, alors qu'il n'avait pas le commandement de prier. C'est-à-dire que la tfila, elle est innée chez Abraham. La tfila de Shachit. La tfila de Arvit est innée chez Yaakov Avinu. Alors pourquoi il n'a pas prié avant, justement? Alors sur ça, Rabbi Chaim Brisk qui dit... C'est pas juste quand il était avant, il était Yoshev Velomet, Torato Umanuto. La Gemara a dit que Rabbi Shimon Behavirav, Rabbi Shimon Behavirav, Torato Umanuto, il s'arrête pas pour faire la tfila. Oskim Behaye Sha'a, Oskim Behaye Olam, Oskim Behaye Sha'a. Donc celui qui s'arrête, et au milieu de l'étude, c'est quand il s'arrête jamais pour autre chose. Évidemment, comme Rabbi Shimon, alors il s'arrête pour faire Kriyat Shema, mais il s'arrête pas pour prier. Il n'a pas de nécessité de prier. Il y a quand même dans cet ordre-là et dans cette dimension-là. Mais quand il part pour aller chez Lavan, donc il a une autre dimension. Il s'est interrompu. Soudain, il s'est interrompu d'étudier. Il va s'occuper à présent de son business dans ce monde. Il va marier une femme, etc. Donc il s'est arrêté d'étudier. Il faut faire Arvit. Et le Arvit, il est en prévision de cela. C'est ça le sens de Makom. Maintenant, quand on fait la Amida, on doit relever le Makom. On doit créer ce Makom à travers la Amida. La Amida, le Makom, c'est le nom de Dieu. Si on prend Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, fois Yud, ça fait 100. He, fois He, ça fait 25. Vav, Vav, ça fait 36. Et He, He, deux fois He que multiplié, ça fait 25. Ça fait 186, valeur numérique de Makom. Il y a un autre concept, c'est que Yud, il y a une composition du Shem Ekié avec Yud Ke Vav Ke. Le Shem Ekié, il s'écrit Aleph et Yud Ke. Quand on le remplit, Aleph, il s'écrit Aleph Lamed Pe, ça fait 111. Et il s'écrit He Yod. Yud, il s'écrit Yod Vav Dalek. Et He, c'est He Yod. Il fait valeur numérique 161. Et en dessous, on va mettre Yudke Vavke. Alors, c'est ça ce que la Kavana quand on se fait les prosternations. Quand on dit Baruch, on prosterne le corps. Alors là, qu'est-ce que c'est-à-dire? Ça veut dire quoi, on prosterne le corps? On descend le Yud Hishem Eke, le 20, 20 et 15. Ils descendent sur quoi? Sur le Vav, qui est en dessous eux. Et il se lit. Donc, on a, et quand on se redresse, On redresse ça. Donc là ça fait 20 et 15, ça fait 35. En dessous, il y a 6. 35 et 11, vavke, ça fait 46. Quand on fait Baruch Atta, quand on dit Atta, on prosterne la tête. On plie la tête. Donc au début, on plie le corps. C'est Yud, Ke, les 35. Ils descendent vers le vavke. Après, on prosterne la tête. On dit le Aleph, c'est 111, Aleph, Lamed, P. Et à côté, il y a 15. Ils se baissent et ils descendent sur le Aleph, le Yud, Ke. Donc, nous avons là, quand on redresse en deux temps. Donc, quand on redresse le corps après la tête, quand on redresse la tête, donc on a 15 Yud, Ke en bas qui se relie à Aleph, 111 plus 15, donc 111 plus 10, ça fait 120, plus 5, ça fait 126, plus 5, ça fait 111, 111 et 10, 121, 126, 126 et 10, 136, et 5, 135 et 5, ça fait 140. Alors on a formé quoi? Regardez comment on a formé. Quand on, les deux dernières, les quatre lettres, les dernières lettres, on forme même Vav. Et les premières lettres forment Kouf même. C'est Makom. C'est les mêmes termes que Makom. Donc, en faisant les prosternations en deux temps et en se relevant, on crée le Makom. Donc, on voit que la prosternation permet au Makom de se constituer. Et le Makom, c'est quoi? C'est l'amplification du Shema Vaya dans toutes les directions. C'est le sens qu'il y a dans ce Makom-là. Et c'est ça ce que nous avons emporté avec Yaakov dans le Galout. Et c'est ça l'idée, que par les prosternations, nous canalisons, nous dirigeons notre philote vers le Makom en question, qui est la porte du monde. C'est par cet endroit-là que les philotes parviennent aux cieux et atteignent le trône divin. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.